That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'heure de l'apéro.
Radiophonie. Le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. News every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news. Truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
Apéro phonique.
Yes, music just to please our audience.
L'apéro phonique. Apéro phonique. Apéro phonique.
L'apéro phonique.
This radio station has been constructed.
Apéro phonique.
Apéro phonique. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Plus Grenoble 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le bouncer musical et culturel de ta radio.
Bonsoir à tous, c'est Myriam sur Campus Grenoble 90.8. Je suis avec Sébastien ce soir.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir Sébastien, comment vas-tu ?
Ça va très bien, et toi ?
Très bien, un peu stressé mais ça va.
Un petit peu aussi.
Alors ce soir on va vous parler de VIH. Alors mars 2019, le patient de Londres est le deuxième cas de rémission de longue durée au VIH. En effet, 12 ans plus tôt, il y avait eu un premier cas appelé le patient de Berlin. Alors c'est des cas qui ont fait couler beaucoup d'encre. Les journaux nationaux et internationaux ont relayé massivement cette information. Alors comment expliquer déjà ces deux cas de rémission ? Alors on parle aujourd'hui de rémission et pas de guérison parce que il n'y a pas de données reproductibles et donc les patients préfèrent chercheurs préfèrent dire que ces patients-là sont en état de rémission. Comment ça s'est passé ? Alors ces deux patients-là ont subi des greffes de moelle osseuse parce que en plus du VIH, ils étaient atteints d'un cancer. Or les greffes de moelle osseuse, elles ont eu un effet qui en fait est à la base une complication, c'est-à-dire que le système immunitaire de la moelle osseuse greffée a attaqué les tissus des receveurs, les tissus qu'ils avaient à la base. Cette attaque de tissus a diminué le réservoir de cellules possibles pour le VIH. Alors donc on en parle beaucoup, pour certains il s'agit peut-être de la fin de l'épidémie, mais il faut vraiment temporiser cette découverte et sa portée. En effet, le New York Times, qui a été le premier à publier cette découverte et ce deuxième cas de rémission, explique que la généralisation de ce traitement par greffe de moelle osseuse n'est pas envisageable dans l'immédiat, pour plusieurs raisons. Alors, dans un premier temps, les greffes de moelle osseuse, elles sont risquées. Dans un second temps...
Dis-nous tout.
Je te dis tout, Sébastien. Dans un second temps, pour faire une greffe de moelle osseuse, il faut un donneur compatible. Et pour faire une greffe de moelle osseuse avec rémission de longue durée au VIH-SIDA, il faut que le porteur de moelle osseuse présente une mutation CCR5. Donc, il faut déjà des gens compatibles et en plus compatibles avec la mutation. Ça fait un petit vivier, finalement, de donneurs dont la moelle osseuse peut permettre une rémission de longue durée au VIH. Enfin et surtout, aujourd'hui, les effets secondaires des greffes de moelle osseuse sont importants et durables. Donc, il n'est pas envisageable ni matériellement réalisable d'étendre ces greffes-là à tous les porteurs du VIH. Alors, donc ces découvertes, comme je le disais, elles doivent être quand même prises avec prudence. Et il ne faut surtout pas qu'elles cachent une autre réalité et d'autres éléments sur l'épidémie du VIH actuellement. Laquelle ? Alors d'abord, je vais vous donner quelques statistiques dont on discutait avec nos invités peu avant de commencer l'émission. Alors d'après l'ONU SIDA, pour 2017, il y avait 36,9 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. 172 000 en France. Alors, une de nos invitées, donc Sylvie, tu me disais tout à l'heure que ce chiffre-là, il faut aussi le prendre avec prudence parce que les instituts de sondage qui produisent des chiffres au sujet du VIH ont changé de logiciel cette année. Et donc, c'est seulement une estimation.
C'est pas tant des instituts de sondage, mais plutôt les systèmes de comptage obligatoire. On a des déclarations obligatoires à faire dès lors qu'on découvre une séropositivité. Et ça, c'est traité par Santé publique France. Donc, on est sur des chiffres qui sont remontés par les laboratoires de ville, par les centres de dépistage gratuits, par toutes les institutions, finalement, qui vont découvrir ou suivre une personne atteinte. Donc, on est vraiment... C'est pas du sondage, si je puis me permettre.
D'accord, oui.
Mais on est vraiment plus sur un recueil de données à partir de déclarations obligatoires.
C'est des statistiques, alors, plus
oui,
que du sondage.
Oui, tout à fait.
Effectivement, oui. C'est vrai que le mot était un peu inapproprié. Donc, comme je disais, 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Sur ces 36,9 millions, il y en a seulement 21,7 millions qui ont accès au traitement. Ce qui signifie qu'environ 15 millions de personnes sont porteuses du VIH, mais n'ont pas accès au traitement. Autant vous dire que dans ce cadre-là, il est difficile de parler de la généralisation d'un traitement encore plus cher et plus compliqué que le traitement qui existe actuellement. Enfin, 75% des personnes contaminées connaissent leur statut, mais il reste 25% de personnes dans le monde qui sont contaminées par le VIH, mais qui ne connaissent pas leur statut, qui donc ne peuvent pas suivre le traitement. Or, une personne qui n'est pas sous traitement, d'une part, prend un risque pour sa vie, parce que la maladie risque d'évoluer et de la rendre de plus en plus malade jusqu'à provoquer son décès. D'autre part, le traitement aujourd'hui permet aux personnes porteuses du VIH de ne pas le transmettre. Or, une personne qui n'est pas diagnostiquée, donc pas traitée, peut transmettre le VIH. Quelle conclusion tirer de tout cela ? L'épidémie n'est pas finie et cette actualité sur le deuxième cas de rémission de longue durée ne doit pas nous pousser à diminuer nos efforts pour lutter contre le VIH. Quels doivent être ces efforts ? Dans un premier temps, une nécessité de dépistage et de la généraliser et de aussi parler à tout le monde de santé sexuelle, de ce qu'il faut faire quand on a plusieurs partenaires ou quand on prend des risques liés à un usage de drogue. D'autre part, aussi informer sur le VIH, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut pousser beaucoup de monde à ne pas se faire dépister ou à ne pas pousser la porte d'un centre de santé et de diagnostic sur les infections sexuellement transmissibles, c'est le manque d'information et la peur, en fait, que génère le VIH. Enfin, il y a un énorme progrès à faire pour l'accès au traitement. On en parlera en fin d'émission. Il y a un foyer d'épidémie qui est présent dans des pays dont le système de santé est assez faible. Et ces pays-là ne peuvent pas offrir un accès suffisant au dépistage et au traitement pour les personnes porteuses du virus. Donc, ce qui permet à l'épidémie de poursuivre son expansion dans ces pays-là. Donc, ce soir, on va parler de plusieurs choses. On va d'abord présenter le travail de nos deux invités qui viennent de l'association Tempo et de Sida Info Service. Mmh. Ensuite, on parlera du vécu avec le VIH et enfin, on parlera du cas particulier des femmes vivant avec le VIH. Je te laisse la parole, Sébastien.
Merci, Myriam.
Je t'en prie.
Donc, nos invités ce soir, donc, nous accueillons Sylvie van der Schilt. Bonsoir, Sylvie.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'association SIDA Info Service.
Non, coordinatrice. Présidente, ça serait un peu trop pour moi, je pense.
Coordinatrice de l'association SIDA Info Service. SIDA Info Service informe, écoute, oriente et soutient toutes les personnes à propos du VIH-SIDA.
Oui, tout à fait. J'en dis un peu plus
oui,
maintenant.
Oui, si vous le souhaitez, oui.
Bah, comme ça sera fait.
Voilà.
Donc SIDA Info Service est effectivement une association de lutte contre le VIH qui a été créée en 1990. Ouais. Donc on va bientôt fêter nos 30 ans l'année prochaine, comme aide il y a un ou deux ans en arrière. Donc notre spécificité, c'est l'écoute, la relation d'aide à distance. On ne reçoit pas le public en face, à face, mais par téléphone, par chat, par forum, par mail. Donc notre spécificité, elle est là. Nous, c'est de l'accueil à distance.
De façon anonyme.
Absolument. Donc on répond évidemment à environ toutes lignes confondues parce que C'est le VIH, c'est les hépatites, c'est les IST, infections sexuellement transmissibles, santé sexuelle. On participe aussi au numéro vert national contraception, enfin sexualité, contraception IVG qui est porté par le planning familial. SIDA Info Droit, Droit des Malades Info. Enfin bon, voilà, on répond sur un certain nombre de dispositifs et on reçoit à peu près 250, 300, voire 350 appels ou chats par jour.
Par jour, 350 000 personnes qui vous contactent chaque jour.
350, c'est à peu près entre 300 et 350, c'est à peu près la moyenne. Sur la ligne.
Sur la ligne du 0800 840 800.
Tout à fait. Et sur nos canaux internet aussi.
Chat,
mail, forum. Et c'est 7 jours sur 7. Donc, on peut nous contacter même quand c'est dimanche, même quand c'est les jours fériés. On est là de 8h à 23h. Mmh. Et de 23h à 8h, donc, là, ce sont les urgences qui prennent le relais si toutefois il y avait à traiter en urgence une situation.
Merci Sylvie. Notre deuxième invitée, Iris Arnulf. Bonsoir Iris.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue au sein de l'association Tempo, située à Grenoble.
Oui.
Vous êtes engagée en faveur de la qualité de vie et du bien-être des personnes vivant avec le VIH.
Voilà, alors Tempo, c'est une association grenobloise qui a été créée en 1994 et qui, au départ, a été créée parce que beaucoup de personnes nouvellement diagnostiquée pour le VIH se sentait isolée, rejetée, que ce soit par la famille, les proches, le travail. Et donc, du coup, cette association est un lieu où on peut prendre un temps de pause pour discuter, être en soutien psychologique, dans des moments de convivialité,
Alors effectivement, on peut le dire. Je vous ai rendu visite donc vendredi dernier au sein de l'association Tempo, donc située au 13 rue Gay-Lussac. Donc je me suis bien rendu compte de l'engagement en faveur des personnes vivant avec le VIH. J'ai bien ressenti la bienveillance qu'il y avait au sein de l'association, notamment avec Myriam, qui est nutritionniste. Et donc, avec elle, on a pu participer à un cours de cuisine.
Oui.
Voilà. Effectivement, j'ai senti des personnes à l'écoute, concernées par la maladie. Écoutez, on peut écouter un court extrait. Myriam, qu'est-ce que t'en penses ?
Je suis d'accord avec toi. On va écouter un extrait d'un enregistrement qu'a fait Sébastien donc vendredi dernier. Parce que tous les vendredis, du coup, Iris, à votre association, vous organisez un repas.
Oui, c'est ça. C'est un atelier thérapeutique culinaire parce que ça va au-delà du repas. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de partage. C'est un moment où on se réapproprie une identité différente que celle simplement d'une personne qui vient parce qu'elle est séropositive. C'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, partager des souvenirs, apporter une idée, une envie, un désir, ça fait aussi partie des missions de Tempo qui concernent la qualité de vie et qui participent au bien-être de chacun. Donc, que ce soit pour tous les types de personnes, tout le monde, quoi. Et c'est vrai que parfois, pour certaines personnes qui sont en situation d'exil et qui ont traversé des moments compliqués, le fait de pouvoir partager une recette du pays duquel elles viennent, c'est aussi se réapproprier son identité et de pouvoir la partager et d'être en communion avec tout le monde à ce moment-là.
Donc des moments de détente, de ressources.
Oui.
Et ce qui contribue aussi à l'observance des traitements à travers ces ateliers aussi, ou de façon plus anonyme.
Chaque moment, ouais. Oui, chaque moment est important et participe à l'observance. L'observance, c'est le fait de prendre correctement son traitement et du coup d'être en charge virale indétectable et de ne plus transmettre la maladie. Donc les moments de partage, de bien-être qui sont ces moments-là qu'on a ensemble dans les ateliers, y participent, ou bien voilà, un suivi thérapeutique psychologique avec moi, ou l'ancienne psychologue aussi. Enfin, depuis, je ne suis pas depuis 94, mais voilà. Donc du coup, tout ça participe au fait que quand on continue de mettre un pied devant l'autre et d'avancer, ben voilà,
petit pas par petit pas.
Voilà, petit à petit.
Petit à petit. J'ai un extrait de la minute philosophique en cuisine avec Myriam et Réna. S'il te plaît.
J'irais bien au thème, voilà. L'instant philosophique de tempo.
Minute philosophique par Anna.
On est ce qu'on mange. On prend l'énergie de ce qu'on mange. Et c'est très important, en fait, parce que c'est comme les plantes prennent l'énergie de l'eau, de la terre et du soleil. Nous, on prend l'énergie, entre autres, de ce qu'on mange. Et on oublie ça, en fait. C'est une importance métaphysique, quoi.
Carotte, tu manges, carotte, tu deviendras. Aujourd'hui,
on va faire le plein de vitamine D. C'est
voilà,
ça
aujourd'hui,
on va bronzer.
Bêta-carotène à fond. Hein.
Ah voilà, bêta-carotène.
Là, pour le coup, ce week-end, demain, il fait beau. Ouais. Mais au soleil, tu vas voir, d'un coup, tu vas dire, oh punaise, c'est un pot. Eh, ça fait petit pot de carotte, là, pour le coup.
Ouais.
Alors,
carotte, tu manges, carotte, tu deviendras.
J'étais pas là, mais ça avait l'air animé, mais ça m'étonne pas. Donc, c'était Rana qui est salariée à l'association Aide et qui s'occupe du justement d'appartements de coordination thérapeutique et qui participe deux vendredis par mois. À du coup, comment
atelier thérapeutique, ces ateliers thérapeutiques culinaires.
Alors, moi, il y avait quelque chose, une question que je voulais te poser, Iris, ici. C'est que, d'un a priori, sur la santé et sur le VIH et sur le soin des patients, c'est que quand on est malade, on va avoir un médecin. Mm-hmm. Du coup, toi, comment, quelle démarche, en fait, et quelle est l'utilité d'une association comme Tempo? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si ce type d'association-là n'existait pas, en fait?
Waouh. Alors, quand on est malade, on va voir un médecin. Ouais. La maladie, c'est l'expression de symptômes. Voilà. Là, quand on est en charge virale indétectable, on n'a pas d'apparition de symptômes. Et pourtant, on est porteur d'un virus dont on ne guérit pas. Donc, dans la tête, tout ça fait des nœuds et c'est compliqué. Le fait de pouvoir venir dans une association, pouvoir parler de ça, pour pouvoir parler du rejet dont on souffre quelquefois au quotidien, ou parce qu'on est on va dans un rendez-vous médical où on est victime de stigmatisation parce qu'on est porteur du VIH, venir dans une association aide à justement, comment dire, pas accepter ça parce que c'est inacceptable, mais de pouvoir en parler pour pouvoir
C'est difficile pour Iris de parler je trouve de Tempo parce que parce qu'elle y œuvre au quotidien, enfin, je trouve que les acteurs qui, enfin, c'est vachement plus difficile de parler de ce qu'on fait que donc moi en tant que partenaire, je vais dire ce que Tempo apporte.
Je t'en prie.
Tempo, c'est du lien, c'est faire le lien, c'est faire le lien social, c'est rompre l'isolement. Tempo, c'est la possibilité pour des personnes qui sont un petit peu en rupture, justement du fait d'un virus qui est présent en eux, enfin en tout cas de ce qu'elles vivent, en tout cas de la façon dont elles vivent, des personnes bien souvent en précarité, de pouvoir avoir un espace où elles peuvent se dire, un espace où elles peuvent partager, où elles peuvent échanger, où elles peuvent construire.
Créer du lien social.
Absolument, donc créer du lien social, c'est c'est avoir une approche, c'est une possibilité en toute convivialité. On entend Rana, moi j'étais morte de rire d'entendre la minute philosophique de Rana, parce que voilà, c'est ça Tempo, c'est la simplicité, c'est l'envie d'être ensemble
et la convivialité également.
Ouais, de porter les choses ensemble, de faire les choses ensemble, de manger des bonnes choses qu'on va échanger.
Et effectivement, ça permet de libérer la parole. C'est-à-dire que au départ, quand les gens arrivent à Tempo, c'est parfois compliqué, on connaît personne. Et puis il y a plusieurs médias. L'atelier culinaire en est un. C'est aussi un support pour libérer la parole et pour échanger avec les autres. Et libérer la parole, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui... c'est une maladie qui est encore une maladie honteuse, encore aujourd'hui, en 2019. Et donc, le fait d'en parler, c'est toujours compliqué. Que ce soit avec les proches, avec les amis, il faut que je vous avoue quelque chose. Mais il n'y a rien à avouer, il n'y a pas de faute. Enfin, du coup, le fait de pouvoir libérer la parole dans un lieu quel qu'il soit, que ce soit à Tempo, que ce soit à Aide, que ce soit avec son médecin traitant, tous les moyens sont bons pour libérer cette parole et pour, du coup, l'accueillir. Donc, il faut pouvoir avoir ces moments où on se pose, où on discute, où on écoute seulement au début, quand on arrive, on écoute seulement. Et du coup, ça participe justement à pouvoir se sentir bien et à accepter la maladie, à prendre ses traitements. Et c'est pas si simple que ça, même quand ça fait 10 ans qu'on est malade.
C'est pas si simple parce que c'est une maladie qui est encore taboue aujourd'hui.
Oui.
Et que les personnes, les patients se bloquent.
Voilà.
Et s'isolent.
Oui.
C'est pas que ça. C'est pas on s'isole parce qu'on est malade. Mmh. On s'isole parce qu'on est isolé aussi d'un point de vue général, social. Quand tu vis dans la précarité, bien sûr, quand t'es malade, ça en rajoute une couche.
La discussion que j'ai eue avec Myriam, la nutritionniste, je lui dis, mais à aucun moment c'est écrit sur leur front.
Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord que y a eu une époque bien lointaine où effectivement on pouvait éventuellement penser qu'une personne était séropositive parce que elle avait les joues très creusées, elle était très maigre, enfin bon, à une époque on a pu dire, et puis c'est plus le cas maintenant effectivement grâce au traitement, on peut pas dire, c'est pas marqué effectivement sur le front ou ailleurs, qu'on est porteur de la maladie. Ça, c'est vrai. Mmh. C'est vrai ce que tu dis.
Mais du coup, Sylvie, toi qui est coordinatrice de SIDA Info Service, tu es en lien avec des gens qui ne sont pas forcément atteints du VIH, mais qui te posent des questions à ce sujet-là. Quel type d'écho tu as par cette ligne à la fois téléphonique et aussi sur les réseaux, quel genre de questions on te pose? Est-ce que tu peux témoigner d'une meilleure connaissance avec les années de la maladie, ou au contraire d'encore beaucoup de préjugés lorsque tu as des interactions avec des gens?
Alors, les personnes qui vont contacter SIDA Info Service sont généralement des personnes qui ont une question en lien avec la pathologie ou le VIH, principalement des risques de transmission. Est-ce que dans telle situation, j'ai pris un risque? Alors effectivement, les personnes vivant avec le VIH représentent à peu près 8% de l'ensemble de nos appels. C'est pas forcément énorme en soi. Donc nous, on va plutôt traiter ce qui est de l'angoisse en lien avec une situation. On va orienter, on va inciter au dépistage, on va être un acteur d'accompagnement sur les nouveaux dispositifs de prévention. Je pense à la PrEP, mais on en reparlera tout à l'heure, notamment, mais pas que. Et puis, quand tu parles des fausses croyances, bien sûr qu'il y en a encore. Et oui, on entend encore sur la ligne on a des questions qui, après 30 ans, plus de 30 ans d'épidémie, tu dis, mais comment on peut encore poser cette question, quoi? Mais en même temps, elle signe la peur plus que l'ignorance, parce que on revient à des questions, est-ce que ça se transmet par le moustique? Alors, il ne s'agit pas de se moquer de la personne qui pose cette question, c'est encore une fois une expression d'une peur. Donc, effectivement, c'est pas gagné encore.
Même 36 ans après la virus, enfin, après la découverte du virus en 1983. Très bien. Une pause musicale.
Une petite respiration avant de vous rejoindre pour la deuxième partie de l'émission. Donc, je te laisse présenter ce son que tu as choisi, Sébastien.
Sa raison d'être.
Ensemble.
Pascal Obispo. Ensemble.
Alors, c'est un collectif d'artistes en 1998.
Un collectif d'artistes en 1998. La chanson s'intitule « Sa raison d'être ensemble » de Pascal Obispo.
Merci.
Plus dur,
car aujourd'hui, si l'existence ici
ne se limite qu'à la souris, il faut savoir qu'une aile de papillon
peut tout changer pour de bon.
C'est peut-être,
oui, peut-être,
une goutte dans la mer.
C'est peut-être,
oui, peut-être,
une goutte dans le désert.
C'est peut-être.
C'est peut-être
une goutte dans la mer.
C'est peut-être
une goutte dans le désert.
Oui, oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
C'est sa raison d'être.
Oh, sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
C'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Thank you.
Nous revoici sur Campus Grenoble 90.8 avec Iris et Sylvie de Tempo pour Iris et Sida Info Service pour Sylvie et Sébastien.
Tout va bien.
Tout va bien.
On a de et Myriam. Campus Grenoble.
Et Myriam. Et Myriam aussi. Du coup, Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose. Donc, on vient d'écouter Sa raison d'être.
Oui, c'était juste dire que cette chanson avait été créée pour le SIDAction et que c'était bientôt le SIDAction, puisque c'est début avril, du 5 au 7 avril. Voilà, c'était lancer un petit flash de ce côté parce que va y avoir les appels aux dons et on a besoin de ça pour continuer la lutte.
Du coup,
l'association qui a été créée en 1994, donc on fête également l'anniversaire, les 25 ans.
Absolument.
Du SIDAction.
Et du coup, le SIDAction, comment ça fonctionne? Sylvie, tu peux nous en dire un peu plus? Si une personne, par exemple, veut faire un don, comment? Est-ce que c'est par téléphone, par Internet?
Alors, pendant 3 jours, il va y avoir des animations en France. Alors, je ne sais pas encore si sur Grenoble, il y en aura. Mais enfin, toujours est-il que SIDAction, vous y serez. Oui, comme d'hab. Pourquoi je pose la question, franchement? Enfin, bref.
Ouais, je crois que vous tenez un stand de fleurs. C'est ça, le 5 et 6 avril.
On tient un stand où on va vendre des articles du SIDAction. Ouais.
Voilà, rue Félix Poulat, à côté de la FNAC.
Voilà, c'est ça.
Le 5 et 6 avril.
Le 5 et le 6 avril.
Et l'idée, donc, c'est de recueillir des dons, des promesses de dons. Alors ça sera possible en téléphonant. Il y aura un petit numéro qui va apparaître puisque tout... Enfin, il y a une convergence de moyens, de médias, de télé. Enfin, voilà, il y a toujours... je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le 110
avec le ruban rouge.
Ouais. Donc, voilà. Et c'est un appel aux dons qui seront ensuite redistribués. Une partie pour la recherche et une partie pour les associations.
50-50.
Voilà. Pour,
donc on remercie d'ores et déjà tous ceux qui vont faire un don, puisque SIDAction verse 50% des dons aux assos dont nous faisons partie à Tempo. Voilà.
D'accord, pour soutenir votre activité et le support que vous apportez aux personnes atteintes du VIH et aux proches aussi parfois des personnes atteintes
Absolument,
du VIH.
Absolument, oui.
D'ailleurs, s'il y a des personnes qui se sentent concernées et qui voudraient avoir une approche avec l'association Tempo, on peut les inviter à soit vous contacter par téléphone ou par mail à stempo@wanadoo.fr.
Et vous êtes aussi présent sur Facebook et vous répondez très 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 rapidement.
Ouais, on est assez réactifs.
Donc, c'est toi, Iris, qui répond?
Ça dépend. C'est Myriam ou c'est moi. C'est une des deux. Voilà.
Et c'est Association Tempo.
Voilà, c'est la page Facebook Association Tempo. Et puis, c'est une page qui se reconnaît assez facilement. C'est très coloré. Voilà.
Tout à fait. Donc là, maintenant, on entame la deuxième partie de notre émission. Mmh. Alors nous, ce qu'on trouve important en abordant la question du VIH aujourd'hui, c'était de parler justement de la vie que menaient les personnes porteuses du VIH. Et aussi les représentations sociales liées au VIH qui vont forcément influencer le vécu de la maladie.
Donc, quel vécu pour les personnes atteintes du VIH? On voulait également parler de la sérophobie, Myriam.
Oui, alors...
Avec également aussi l'accès aux soins pour les personnes séropositives.
Et les violences médicales. Donc ça, c'était une première chose dont tu m'as parlé, Iris, quand on s'est rencontrés. C'était la question pour les personnes qui étaient porteuses et qui avaient des rendez-vous médicaux, mais pas forcément liés au VIH, parce que, par exemple, dans le cas des deux personnes qui font la une des journaux actuellement parce qu'elles ont été... elles ont une rémission de longue durée au VIH, elles étaient porteuses aussi de cancer. Donc, c'est pas parce qu'on a le VIH que c'est la seule chose qui peut nous arriver. On peut avoir une carie, besoin d'un examen gynécologique, d'autres choses. Et du coup, quand une personne se présente chez un praticien, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que, de ton point de vue, le personnel médical est suffisamment informé, formé et préparé à accueillir ces personnes-là?
Alors, je connais pas, je pourrais pas vous dire, vous dresser une liste de médecins super et de médecins super relous. Mais dans les témoignages que je peux avoir à Tempo, il s'agit d'accueillir un peu toute cette colère et ce sentiment de rejet que les personnes ont pu avoir de la part du personnel soignant parfois. Par souci de d'honnêteté ou de... Voilà, les personnes arrivent au cabinet pour soigner une carie Et parce que c'est un élément médical, du coup, de dire au médecin, ben voilà, je suis séropositif, donc je préfère vous le dire. Voilà, c'est des... Et du coup, le médecin disant, mais là, je peux pas. Je peux pas, je suis pas prêt, je ne sais pas faire.
Et de quel droit?
Alors,
il peut refuser un patient.
Alors c'est interdit hein, par oui. la loi. Hein, on n'a pas le droit de faire
du refus
de soins.
Et quels sont les motifs? Oui, quels sont?
Bah, la peur simple. D'être ouais. contaminé. Voilà, des angoisses du fait de l'ignorance des modes de contamination, de transmission. Donc voilà, quand on sait aujourd'hui que les personnes ne transmettent plus la maladie parce qu'elles sont charges virales indétectables ou parce que, de toute façon, après chaque soin, les outils sont nettoyés comme après chaque personne. Du coup, il n'y a pas de souci. Même en charge virale détectable, il n'y a pas de souci parce qu'on peut avoir les soins et après, c'est lavé. Enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est un non-sens, quoi. C'est vraiment quelque chose de très douloureux pour les gens qui le vivent. Et ça peut se voir aussi chez des gynécologues, chez des proctologues. Donc c'est vraiment des situations douloureuses sur le long terme. C'est-à-dire que ça marque les gens d'une façon... longue et durable et de se remettre de ça et du coup de rentrer en relation avec d'autres personnes du quotidien, ça a un impact et ça vient empêcher le lien, les relations. Donc du coup effectivement à tempo le fait de pouvoir reprendre c'est écouter, entendre les histoires de chacun et de dire que effectivement ça n'est pas normal et c'est pas comme ça que ça doit se passer et d'accompagner vers une prise en charge, un accès aux soins meilleur, c'est ce qu'on essaye de faire.
C'est pas comme ça que ça devrait se passer parce que justement les nouveaux traitements empêchent la personne atteinte par le VIH sa charge virale est indétectable. Donc, elle ne peut pas transmettre le virus. Vous pouvez nous en dire plus à propos de cette charge indétectable? Qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs?
Une charge virale indétectable, c'est une mesure de quantité de virus dans le sang. Mmh. C'est un indicateur qui permet aux équipes soignantes de voir là où en est la personne. Quand on parle de charge virale indétectable, ça veut dire que la quantité de virus qu'on va détecter dans le sang d'une personne qui est séropositive est tellement bas qu'il va être inférieur au seuil de détectabilité. Concrètement, ça veut dire que le virus est contrôlé. On parle même de virus dormant. Donc l'intérêt, effectivement, d'avoir une charge virale indétectable, c'est que ce virus ne circule pas dans le corps et qu'il, effectivement, on ne peut pas contaminer.
D'accord. Alors, une chose que je voulais dire, c'est que justement dans la formation médicale, pour en avoir déjà parlé avec des personnes kinés ou infirmiers, apparemment, il y a peu de place, en fait, lié à cette infection, à la particularité du VIH et à la façon ou de protocoles existants, tout simplement pour, par exemple, un dentiste, un gynécologue ou une personne qui pourrait se poser la question de la contamination, de dire il y a un protocole de prévu, donc le patient qui se présente à moi est porteur du VIH, donc j'applique le protocole. Il y a peu de discussions, en fait, finalement, et peu de présentations de cette maladie-là. Et du coup, même le corps médical qui, a priori, devrait être informé à ce sujet-là, ne l'est pas. Est-ce que, de votre côté, vous savez s'il y a des structures qui proposent des formations pour les médecins au sujet du VIH ?
Oui, bien sûr. On n'a pas parlé du COREVI. Le COREVI, c'est le comité de coordination régionale VIH, hépatite, IST. C'est un regroupement d'hommes et de femmes, j'ai envie de le dire comme ça, pour humaniser la chose, d'hommes et de femmes qui sont issus du milieu soignant, du milieu associatif. Et on est tous là, puisque c'est peut-être là où il y a eu une petite confusion tout à l'heure. Je suis la vice-présidente du COREVI. Donc, où on va être être dans une prise en charge globale. Et effectivement, on propose des formations aux acteurs, à tous les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, qu'ils soient associatifs ou médicales ou pharmaciens. Ou, voilà. Donc oui, il y a des propositions de formation. Après, moi, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les formations, les cursus de formation initiale. Et puis, on sait bien que dans la formation continue, des professionnels soignants. Bon, ben voilà, il y a tout un package important aussi de mise à jour. Donc, je ne sais pas trop, moi, comment ça se passe dans le concret. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des propositions.
D'accord. Alors, au-delà des violences médicales, il y a aussi la question de la possibilité de dire sa maladie sur son lieu de travail, à sa famille, à ses amis. Et à ce moment-là, il y a d'autres discriminations qui vont avoir lieu. Alors, on parlait notamment, j'en parlais récemment avec quelqu'un, de l'impossibilité pour des personnes atteintes du VIH de faire des emprunts bancaires. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas, comme c'est considéré comme en fait une infection de longue durée. Si par exemple un porteur du VIH souhaite acheter une maison ou monter une entreprise, pour la banque, on demande de faire une déclaration de sa maladie. Et à ce moment-là, en fait, c'est refusé. Est-ce que auprès des personnes, alors Sylvie, tu n'as pas tout à fait d'accord.
J'opine de la tête. Donc, c'est pas que je suis pas tout à fait d'accord. C'est que, en fait, là, on est en train d'évoquer le dire ou pas dire. Le dire ou pas dire, il est dès le départ au moment de la découverte de la séropositivité. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas simple parce que dire, ça veut dire s'exposer au regard de l'autre, quel qu'il soit. Et oui, ça peut être source de rejet, tu le disais, Iris. Donc, la discrimination, elle commence déjà au moment où on découvre sa séropositivité. Au niveau des discriminations en lien avec la pathologie et notamment pour ce qui est des emprunts, c'est pas simple. Il est possible d'emprunter, il est possible de d'acheter une maison, d'emprunter pour son entreprise. C'est vrai que il y a eu un temps où beaucoup d'associations ont pu conseiller de ne pas dire qu'on était porteur du VIH pour éviter les refus. Un dispositif qui est la convention AERA, je crois, AERAS, voilà, qui est une convention toute particulière qui est prévue pour toutes les pathologies chroniques, dont le VIH, qui va permettre à la personne d'emprunter. Alors, évidemment, c'est contractuel, évidemment, c'est soumis à un accord, mais c'est possible. Je ne suis pas en train de dire que c'est possible à chaque fois, mais il y a quand même des possibilités qui permettent aux personnes de pouvoir emprunter. Ça reste un sujet délicat, ceci étant, parce qu'évidemment, ça coûte plus cher. Ou alors, on va assurer la partie décès, mais on ne va pas assurer la partie invalidité, ou parce que, ben voilà, on va estimer que celle-là, on ne va pas la prendre en charge. Donc, c'est une convention qui peut ne pas être complète, alors qu'une personne en bonne santé pourra avoir son crédit protégé à tous les niveaux, quoi. Enfin, assuré à tous les niveaux.
Donc tu veux dire que pour une personne qui emprunte via cette convention-là, si par exemple elle se retrouve à être en incapacité, invalide en raison d'une maladie, elle n'est pas assurée parce que ce n'est pas prévu par l'assurance.
Je ne vais pas le systématiser, mais ça peut arriver.
D'accord. Alors, autre sujet un peu délicat, tu me parlais, on vient d'écouter du coup la chanson Ensemble, qui a été créée à la fin des années 90. Et à l'époque, on parlait beaucoup, il y avait beaucoup de prévention faite autour du sida et beaucoup de travail fait pour déconstruire les a priori. Il y avait une séquence télévisée qui a fait qui a marqué les mémoires. C'était Clémentine Célarier qui embrassait sur la bouche une personne porteuse du VIH. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que... justement, tout à l'heure, tu me disais, oui, je voudrais pouvoir parler des personnes qui sont le plus touchées par l'épidémie, mais en même temps, il ne s'agit pas de les stigmatiser.
Non, c'est toute la difficulté parce que au départ de l'épidémie, la stigmatisation est venue parce qu'on a parlé des 4H, les héroïnomanes, les hémophiles, les haïtiens et les homosexuels. En gros, au départ de l'épidémie, on a pu dire que c'est si ça existait, le sida, parce qu'on ne disait pas VIH, on disait le sida, c'est à cause d'eux.
Il y a une différence.
Alors, on va voir tout à l'heure, peut-être.
Comme vous voulez.
Je peux répondre tout de suite.
comme tu veux. Moi, je réponds. Donc, VIH, virus.
On peut le dire deux fois.
Ouais, on le dira deux fois. Si donc, virus de l'immunodéficience humaine, c'est le virus qui est responsable du sida. Sida, syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est-à-dire que le sida. Je vais vraiment raccourcir le truc. Le sida, ça serait le syndrome qui arrive à cause d'un virus qui est le VIH. Voilà. Je crois que là, je le fais en raccourci.
On pourra l'approfondir tout à l'heure.
Éventuellement, ouais. Donc, ouais. Et du coup, oui, il y a eu les 4H. Donc, on a eu des groupes à risque. On a, à un moment, on a dû se battre, nous, pour dire, mais non, c'est pas des groupes à risque, parce qu'on s'est quand même aperçu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient porteuses, qui étaient contaminées. On a parlé de pratiques à risque. Donc, du coup, on ciblait plus les personnes, mais des situations. Il se trouve que l'épidémie enfin le temps a passé, l'épidémie a évolué, je vais parler de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, et là on en est à un nouveau moment où on s'aperçoit quand même qu'il y a des publics, des populations chez lesquelles il y a plus de risques d'être contaminés que chez d'autres. Donc tout l'enjeu pour nous maintenant, acteurs de lutte contre le VIH-SIDA, c'est de à la fois s'adresser aux personnes qui potentiellement pourraient être les plus touchées par une contamination ou touchées par le VIH SIDA, et en même temps ne pas les discriminer. Parce que sinon, nous-mêmes, on discrimine. Si on dit, on retrouve le plus de VIH chez les hommes qui ont des relations entre eux, le raccourci, il est vite fait. Tu vas dire, c'est un truc de gay, c'est un truc d'homo, moi je suis hétéro, je suis pas concernée. Et c'est pas juste parce que là, on revient dans de la discrimination. Et en plus, au niveau des hommes qui ont des relations entre eux, c'est pas pour rien qu'on dit des hommes qui ont des relations entre eux, c'est parce que parmi eux, il y a des hommes qui ont des relations aussi avec des femmes. Ils n'ont pas que des relations avec des hommes. Donc,
Ça justement, c'est un peu le danger du stéréotype, c'est aussi de se rendre compte que certes, il y a des populations qui sont plus concernées, donc par exemple les personnes en migration, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue et les personnes, des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans aucune de ces populations, on a zéro chance jamais d'attraper
le
VIH.
Évidemment, on en a moins en termes de probabilité, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas.
D'accord. Bah, du coup, est-ce que ça vous va si avant la pause musicale, on fait un petit... Sébastien nous a préparé des petites questions pour déconstruire justement quelques stéréotypes liés au VIH et bien préciser les choses pour les auditeurs.
Effectivement, j'avais préparé mes questions, les 10 idées reçues autour du VIH.
Et on va en garder quelques-unes.
Très bien. On parlait du... je vois pas...
Qu'est-ce que le VIH ?
Oui, qu'est-ce que le VIH ?
Tu nous l'as dit un peu tout à l'heure, Sylvie.
Sylvie nous a expliqué, oui. On parlait de la... est-ce que le VIH et le SIDA, donc c'est la même chose ? Comment peut-on attraper le VIH ?
Ah, là, on est sur les risques de contamination. Oui. Donc, sur les risques de contamination, la contamination est principalement, de nos jours, sexuelle, dans 8 cas sur 10 à peu près. Ensuite, on va trouver de façon... Enfin, je dis 8 cas, mais je crois que même c'est même 9 maintenant.
Parce qu'il y avait l'histoire du sang contaminé à la fin des années 80.
Oui, mais c'était en 92. Ouais. Ça, on est derrière. Donc, non, on est vraiment sur des transmissions principalement par relations sexuelles, un tout petit peu par usage de drogue et partage de matériel, quel qu'il soit, que ce soit une paille, que ce soit le matériel d'injection, l'utilisation de la petite cuillère, enfin peu importe le type de pratique, le partage de matériel en cas d'usage de produits. La transmission qu'on dit materno-fœtale, mais on va peut-être y revenir après, qui est donc la transmission de la mère à l'enfant, qui de nos jours, parce que c'est accompagné, représente moins de 1% des contaminations de l'enfant. Donc on est plutôt sur ces trois champs-là. Et quand tu parles de la transfusion, ça a été le gros scandale. Aujourd'hui, les lots de sang sont testés Il y a d'abord un questionnaire et les lots de sang sont testés, ce qui fait que ce qu'on appelle le risque résiduel fait que on n'a pas, on est sécure quoi par rapport au fait de recevoir un don,
une transfusion.
Une transfusion sanguine. D'accord.
Et dernière question du coup pour vous deux, à la fois pour Iris et pour Sylvie, si on fait un dépistage au VIH et
qu'on
a un résultat positif, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il se passe que... Excuse-moi, je prends toute la place.
Je t'en prie,
mon doudou. On met un petit peu de...
Donc, c'est toi, mon doudou.
Ah, voilà, une déclaration en direct. On verra après. Donc, une fois le dépistage... maintenant, j'en bafoue. Le dépistage positif, il est plutôt conseillé d'avoir une prise en charge au plus rapide. Donc, on va orienter la personne vers le centre hospitalier, le centre de référence le plus proche, pour que de suite... Enfin, voilà, il y a une batterie d'examens qui soit fait pour savoir où précisément la personne en est. Est-ce que c'est une contamination récente? Est-ce que c'est une contamination plus ancienne? Où elle en est de son système immunitaire? Quelle est la carte d'identité du virus? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et lui proposer, dès possible, une mise sous traitement pour accéder le plus rapidement possible à la charge virale indétectable.
Donc,
Il semblerait que d'ailleurs le traitement ait été réduit à un cachet par jour. Vous pouvez nous le confirmer si...
Je vous le confirme. Oui.
Et donc, on est d'accord qu'en cas de dépistage positif, si on est en France en tout cas, il y a des structures d'accompagnement dans le fait de prendre bien son traitement, pour d'autres causes de santé, mais aussi pour la vie sociale, et des endroits, des espaces où on peut en parler et être accompagné dans tout ça.
Oui, on a dédramatisé un petit peu aussi tout ça, c'est que vivre avec le VIH, c'est possible. Alors certes, c'est une pathologie chronique, c'est un cachet par jour effectivement, mais d'un point de vue médical maintenant, la prise en charge est telle que on peut vivre normalement quoi, socialement, familial, sportivement, enfin je veux dire, je me souviens d'un appel où un homme qui venait de découvrir sa séropositivité me demandait s'il pourrait continuer à faire du sport. Et ben oui, il peut continuer à faire du sport, il peut avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie.
De chambre, pardon, excusez-moi, si tu
veux que je peux faire. On peut faire tous
ça
les sports.
Ça fait partie de la vie, ouais.
Et voilà, et oui, il y a des structures qui accompagnent. Pas le sport en chambre.
Non. On se calme.
Du coup. Avant de conclure l'émission, je vous propose d'écouter Philadelphia, c'est une chanson de Bruce Springsteen.
Deuxième pause musicale, oui.
Qui est la bande originale du film Philadelphia. Mmh. Donc le film Philadelphia, c'est un film dont le rôle principal est joué par Tom Hanks.
Hanks, oui.
Et ça raconte l'histoire d'un brillant avocat new-yorkais qui découvre sa séropositivité. Et en fait, le film est basé sur un peu une histoire vraie, apparemment, c'est inspiré de faits réels. De cet homme et de la lutte qu'il va avoir avec son cabinet d'avocat qui, en fait, dans les années 80, où il y a beaucoup de stigmatisation pour les personnes porteuses du VIH, en gros, il se fait éjecter complètement. Et tout le procès, en fait, ça consiste à... Est-ce que c'était normal de l'éjecter parce qu'il avait le VIH? Parce qu'au final, les personnes qui ont le VIH, elles l'ont un peu mérité parce qu'elles avaient pris le risque. Voilà, je vous propose cette écoute de cette très jolie chanson et après on conclura l'émission en parlant des moyens de prévention et de l'actualité sur le VIH.
Philadelphia sur Campus Grenoble, 90.8.
Philadelphia. avenue till my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia.
Alors, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 avec Iris et Sylvie de l'association Tempo et de SIDA Info Service et Sébastien.
Et la charmante Myriam.
Voilà, tout à fait. Donc, il nous reste quelques minutes. Pour ces quelques minutes, on voudrait parler des défis actuels.
Tu permets, Myriam.
Ah oui, d'abord, Sylvie, tu voulais dire un petit mot sur la chanson qu'on vient d'écouter.
Ouais, je l'ai fait pour la précédente, donc là c'est peut-être un peu personnel ce que je vais dire, mais c'est pas grave. C'est important pour moi. Tu parlais du film et de Tom Hanks. Il se trouve qu'au moment où est sorti le film, j'ai accompagné deux mois avant mon meilleur ami à la mort du sida. Et c'est une des raisons qui font que je me suis inscrite après dans la lutte contre le VIH, puisque les parents de cet ami ont découvert qu'il était qu'il était gay, qu'il allait mourir 3 jours avant sa mort. Et moi, j'ai accompagné tout ce processus-là. Et dire que dans le film Tom Hanks, j'ai été bluffée, moi, au moment où... Parce que je suis allée voir le film. Parce que sa métamorphose physique, même, tout au long du film, était vraiment raccord avec ce que moi, j'avais vu de mon ami sur la fin. Et tout ça pour dire que ce film, il a été... un grand film... au niveau de la lutte contre le VIH, ça a été le premier qui a eu autant de succès. Et puis là dernièrement, il y a pu y avoir 120 battements par minute, qui lui aussi relate une époque. C'est à peu près la même époque d'ailleurs. C'est d'où l'importance aussi de communiquer encore et toujours autour de ce qui se passe pour les personnes qui vivent avec. Merci.
120
Merci
battements toi, par Sylvie. Minute, oui, un film qui a été récompensé au Festival de Cannes.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai vu les deux films, et ce qui est intéressant, c'est déjà d'avoir cette perspective historique, en fait, de voir ce que c'était avant. Et c'est important aussi de les regarder en conscience du fait qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais de savoir d'où vient cette histoire-là, et de se remettre en question aussi sur toutes les discriminations tout le rejet, tous les tabous. Qui peuvent rendre vraiment difficile la vie des malades, mais aussi vraiment empêcher de lutter contre l'épidémie, parce qu'en fait tous ces tabous-là, ils empêchent de parler de sexualité, ils empêchent de parler d'usage de drogue, ils empêchent en fait de parler de prévention.
Absolument.
Et ça, c'est très grave. Alors, Iris, tu voulais parler justement de la place des femmes, de la place particulière. Alors déjà, je rappelle que le VIH est la première cause de mortalité dans le monde pour les femmes entre 15 et 45 ans. Ou 15 et 54 ans, il faudrait que je vérifie. Les femmes, vis-à-vis du traitement, il y a un enjeu sur l'adaptation du traitement aux femmes.
En fait, ce qui se passe, c'est que les femmes sont sous-représentées dans les recherches sur les traitements. Et du coup, il y a beaucoup de différences entre un homme et une femme au niveau hormonal. Et ce fait-là joue sur la tolérance des traitements, sur... un tas de choses sur l'efficacité. Enfin voilà, je suis pas médecin, mais voilà, il est vrai que elles sont vraiment vraiment sous-représentées et que ce serait vraiment quelque chose de formidable qu'elles puissent participer plus aux recherches. Voilà.
C'est ça, que ce soit plus adapté en fait, et qu'on les considère à part entière comme des personnes différentes et qui ont une différence importante face aux réactions au traitement. Alors on voulait finir l'émission, puisqu'il nous reste 2 minutes, en parlant des défis pour demain. Alors est-ce qu'on peut parler de la PrEP et du Fonds mondial, mais très brièvement? Alors est-ce que l'une d'entre vous va expliquer ce qu'est la PrEP et à qui elle peut être destinée?
Alors, quand il s'agit de demain, on a déjà une visée à 2030. On s'est engagé au 1er décembre, en tout cas dans les Alpes, vers des Alpes sans sida. Vers des Alpes sans sida, c'est atteindre des objectifs qui ont été déterminés au niveau mondial, mais aussi au niveau français, qui est de 80, enfin, qu'on nomme de façon raccourcie 90, 90, 90. 90% de personnes détectées, 90% de personnes sous traitement et de 90% de personnes avec une charge virale indétectable. Donc ça, c'est un défi pour demain. Le défi pour demain passe par effectivement le recours au dépistage et éviter le plus possible de contamination. Et là, je vais faire le lien avec la PrEP. La PrEP, c'est un traitement qu'on prend avant d'être contaminé. Alors quand je dis on, c'est pas tout le monde, hein. C'est là encore proposé aux personnes qui pourraient éventuellement se contaminer parce que une sexualité qui fait que on est dans une population un peu plus ciblée par l'épidémie. Donc c'est un cachet par jour, mais il y a tout un protocole pour pouvoir accéder à la PrEP. Pour ça, vu l'heure, soit l'association aide, soit Sida Info Service. On peut avoir les informations sur le net. Et pour ce qui est du Fonds mondial, je vais la faire courte. En octobre, va se réunir à Lyon les chefs d'État de mondiaux. Et ils vont avoir à déterminer le montant alloué à la lutte contre le VIH dans le monde. Et ça se passe à Lyon. Et il y a un gros enjeu là parce qu'on a besoin d'argent encore. Ça a été dit pendant toute l'émission par nous tous. Il y a un gros enjeu encore à avoir de l'argent parce que ce n'est pas fini et parce qu'il y a des pays où on meurt encore du sida faute de traitement.
Effectivement, le Fonds mondial cherche à recueillir au moins 14 milliards de dollars américains pour accéder au mouvement, accélérer le mouvement contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Alors, il est 19h01, on va devoir rendre l'antenne. Du coup, je vous remercie vraiment du fond du cœur.
Oui. Je voulais juste rajouter qu'il y a un quatrième 90 qui est 90% des gens vivant bien avec le VIH.
Yes.
Merci. Sida Info Service par téléphone au 0800 840 800. Pour l'association Tempo, si vous souhaitez les contacter par email astempo@wanadoo.fr. Pour faire un dépistage, ça se passe au centre de dépistage Le Cégide, situé au 23 avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble. Et si vous souhaitez faire un don, au www.sidaction.org.
Il y a également l'association Aide. Vous pouvez avoir toutes les informations sur Internet, je pense, pour Aide Grenoble. Merci beaucoup, vraiment,
merci
d'avoir été parmi nous.
Merci à vous. Merci Sylvie, merci Iris.
Merci à vous.
Merci
Bonne
Sébastien.
Bonne soirée tout le monde, merci Myriam.
Et merci Louis qui s'est occupé de notre technique ce soir.
Merci.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée à tous.